Bon, bienvenue à cette nouvelle édition. En fait, une édition assez spéciale. Ça fait longtemps que je voulais rencontrer Ariane Thibault-Vanasse par rapport à sa maîtrise. J'ai absolument aucune idée où j'ai pris connaissance de ta maîtrise. J'ai l'impression que c'est comme du coin de l'œil dans un corridor à l'UQAM. Il y a un moment, j'ai vu Série Noire. Puis bon, il n'y a pas de soutenance ici. Ça fait que c'était pas pendant ta soutenance, mais j'ai fait... il y a quelque chose qui s'est fait sur Série Noire. C'est bien intéressant. Je dois rencontrer cette personne-là. Ça a été très long. On y est enfin arrivé. Je t'ai rencontré.
Enfin!
Bonjour, Ariane Thibault-Vanasse.
Salut!
Comment tu vas?
Ça va bien. Merci de me recevoir.
Ah non, c'est super le fun!
Merci de me recevoir pour parler de mon beau mémoire.
Oui, c'est quoi? Sur quoi tu as travaillé?
J'ai travaillé sur Série Noire, tu viens de le dire.
Oui, c'est ça. J'ai un peu gâché le punch. Mais ben, on est en balado, là, ça fait que les gens le savent quand ils partent.
C'est ça. Ben, j'ai travaillé sur les deux saisons de Série Noire, de François Letourneau et Jean-François Rivard.
Et t'as produit une maîtrise qui a été déposée en 2018?
Eh oui, en décembre 2018. Donc, c'est assez cool. Je suis bien contente de ça. Ça fait un petit moment.
C'est sur Archipel maintenant.
Hey, tu m'as dit ça tantôt.
Ça va me faire plaisir de te révéler que ton numéro de série,
oui,
c'est le 12-256.
12-256. Ouais. Hey, 12, c'est comme ma date de naissance en plus.
OK.
Pour vrai.
256, ça serait autre chose.
Ah non, mais là, j'arrête. Ah. Non. Juste le 12.
Le 12.
Donc, juste le 12, ça se fait bien.
Et c'était quoi le titre?
C'était
ça va être
un titre bien long. Là.
Non, mais pour les gens qui veulent chercher 12-256, c'est pas aussi évident que...
Mais écoute, c'est Bienvenue dans le Marc Arcan World. Donc, les fans vont reconnaître la petite Maxime. Bienvenue dans le Marc Arcan World, manifestation de la légitimité dans une série de fiction québécoise, le cas de Série Noire. Donc, juste écrire Marc Arcan, puis je pense que ça va sortir.
C'est vrai que c'est un très bon truc, ça aussi. Ah non, mais je trouve que c'est absolument... c'est fascinant ce que tu as fait, puis je suis vraiment content qu'on puisse en parler.
Eh bien, ça me fait vraiment plaisir, Jean-Michel. Allons-y. Oh!
OK. OK, on commence du début, là. L'idée de faire ta maîtrise là-dessus, ça s'est fait à quel moment?
Eh, ça fait longtemps. Je me rappelle plus. ça s'est fait...
À l'épicerie.
Ouais, c'est Série Noire. Non, je pense que c'est dans saison 2.
OK.
Dans saison 2, il y a la fameuse scène où Denis Rondeau s'en va voir une vieille madame. Une vieille madame qui a le petit chien glaçon. Là,
il s'en va visiter
la vieille madame qui a le chien glaçon. Puis là, il s'en va un petit peu fuir ses problèmes. Puis lui, il y a une gang aux trousses. On ne sait pas trop c'est qui. Là. Donc, il y a des gens qui le suivent. Puis qui lui veulent
le egg, on ne sait pas c'est qui.
On sait qui est le egg, mais c'est une autre. C'est l'autre organisation. Là, donc, on ne sait pas c'est qui. Et puis là, il se fait, à la fin de l'épisode, il se fait étrangler par la vieille madame.
Ouais.
La vieille madame essaye de le tuer. C'est vraiment une vieille madame, là, toute habillée en rose. Là, un peu plus. Puis elle lui offre des peppermans. Elle lui offre à souper. Il y a le petit chien glaçon là, qui est un petit poodle. Donc, elle semble inoffensive, mais elle essaie de le tuer, elle essaie de l'étrangler par derrière. C'est quand même assez violent,
oui,
là, la force.
Ça, c'est raide comme fin.
C'est
ouais.
raide comme fin. Épisode suivant, Marc Arcan, ce grand sauveur, débarque dans le salon et se bat avec la vieille madame, mais d'une manière violente. Puis la grand-mère aussi, elle se débat. Puis là, je sais pas si je peux dire ça à choc, là, sans problème. Ouais. Je peux tout dire.
T'as le droit.
Puis là, Marc Arcan, il dit « Chris, madame, qu'est-ce que tu mets dans tes hallebrandes? » Pour être forte comme ça, j'ai fait la réplique, je pense, qui m'a tuée. Chris, madame, qu'est-ce que tu mets dans tes hallebrandes? J'ai fait, oh my god, c'est génial. Et là, ça, faut que ça aille plus loin, faut que je porte ça, faut que je le crie sur tous les toits qu'il y a quelque chose là qui se fait pas là, dans la télé, qui se fait pas en culture.
Ouais,
faut que j'aille plus loin. Puis en plus, je trouvais ça bien intéressant, toute l'idée du film noir, puis de. Il y a tellement de références au cinéma, mais en même temps, tu le dénigres, ce cinéma-là, tu sais. C'est ça, dans première saison. Écoute, là, c'est parce que je suis vraiment... je l'ai analysé beaucoup.
Oui,
là.
C'est ça. Non, t'as connais. Je sais, t'as possède. Il n'y a pas de problème là-dessus.
Mais tu sais, dans première saison, il y a Denis qui dit à Patrick, qui est prof de cégep, qui enseigne le cinéma, qui enseigne Citizen Kane puis Orson Welles, puis qui offre, en fait, de vivre cette expérience-là scénaristique, tu sais. Mm-hmm. Hors du commun, jamais réalisé, tu sais, qui pourrait transformer le monde de la télévision à tout jamais. Tu sais. Alors, fait qu'il lui donne un peu un ultimatum. Tu sais, viens avec moi ou sinon, ben, tu sais, retourne à ton cégep, puis tu sais, enseigne Orson Welles à des étudiants. Non, tout le monde se fout d'Orson Welles puis de Citizen Kane. Tu sais. Fait que, tu sais, c'est on joue toujours sur ces deux codes-là, tu sais, ce cinéma-là versus ce qui se fait à la télévision, versus on veut pas vraiment s'en départir parce que on fait quand même un film noir qui a une portée artistique.
Ben, c'est qu'il faut que tu assumes tes références, mais comme toutes dans la série, ils sont un peu en train de...
C'est ça, t'es déconstruit. Non, c'est ça, t'es déconstruit, tu joues avec eux, puis tu fais quelque chose d'un peu nouveau, là.
Est-ce que... t'as fait ta maîtrise parce que t'as trouvé un objet que tu voulais absolument aborder?
Absolument.
Ce n'était pas de série noire, t'aurais pas...
Je pense que... J'aurais trouvé d'autres choses. Okay. J'avais quelques points ici et là, là. Donc, moi, j'étais quand même fan de Woody Allen. Je vais le dire, même si c'est un nom un peu maudit.
Mais non, c'est un grand talent quand même. Là.
C'est ça, tu sais, je veux dire, je suis pas adepte de l'homme, là, mais je suis vraiment fan de sa filmographie. Tu sais, j'aurais peut-être aimé ça faire ça en cinéma, peut-être sur ses personnages féminins. Ou tu sais, sur d'autres personnages féminins en télévision, mais...
C'est juste que ça a tombé sur
Série Noire. Ça a tombé sur Série Noire parce qu'en même temps, je venais de le finir. Je viens de finir la première saison, puis j'aime beaucoup ces deux garçons-là, là, François Letourneau puis Jean-François Rivard. Puis j'aime, mon Dieu, qu'ils ont vraiment un univers bien à eux, puis qu'on voit jamais ça. Puis ça serait original de parler de ces gars-là, puis de leur monde, puis de leur façon de faire de la télévision, là, puis de faire, en fait, ce produit-là qui est produit, moi, j'appelle même peut-être ça plus une œuvre même.
Absolument.
Une œuvre qui est singulière dans le paysage télévisuel québécois actuel.
Mm-hmm. Puis autant que tu dis, ça serait le fun d'en parler, à mon avis, puis un peu comment est-ce que je vois le travail sur la culture populaire québécoise, moi, je trouve que c'est important que tu l'aies fait. Mm. Je trouve que d'abord et avant tout, oui, c'est super le fun que tu as trouvé un objet qui te passionne à ce point-là, puis tu as été capable de décortiquer de cette manière-là. Mais sans dénigrer Woody, là, c'est vraiment pas un problème. Il y en a des maîtrises sur ce gars-là, c'est correct.
Non, oh, oui, c'est ça.
Tu sais, on en a... nécessairement, il y aura toujours des nouvelles idées. Je ne suis pas en train de dénigrer toute la forme intellectuelle puis la pratique intellectuelle autour de ce gars-là. Mais si tu veux t'informer sur Woody Allen...
Non, c'est assez facile.
T'es correct. Mais si tu veux t'informer sur une production, puis non seulement sur Série Noire, mais qu'est-ce que j'admire beaucoup par rapport à ton travail que tu as fait sur ta maîtrise, c'est que tu jettes les bases pour une analyse future d'autres... objets
télévisuels. Il y a ça qui était, je trouvais important aussi, c'est travailler sur un objet télévisuel québécois. Les études télévisuelles en France, ils ont un bon air d'aller, puis aussi dans le monde anglo-saxon, les television studies, c'est assez fort. Alors qu'ici, malgré notre tradition télévisuelle forte, là, les Québécois aiment tellement leur télé, on produit de la télé de grande qualité, puis beaucoup, depuis là, longtemps. On a une tradition forte, 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 là, mais pour notre petit bassin de population, en plus, qui est quand même assez hallucinant. Mais les études télévisuelles sont pas encore super développées. Il y a Pierre Barrette qui travaille vraiment fort à rendre ça vivant, puis avec d'autres de ses collègues.
Oui, il y a Martha Bonny,
La Beau Télé à l'Université de Montréal. C'est certain, peut-être que j'ai pas assez bien fouillé, assez bien cherché, mais je trouvais...
Arrête. Non, t'as bien fouillé. Il est vraiment bon, t'as maîtrise. Arrête, là.
T'es fin, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses sur le téléroman. Je savais qu'il y avait beaucoup d'études sur le téléroman, aussi sur les émissions de variété, il y a quand même, dans le variété, il y a quand même des choses. Il y a Pierre qui travaille beaucoup sur le quiz aussi, puis sur... il y a des trucs. Mais sur la série, là, la narrative, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc, québécoise, qu'il n'y avait pas grand-chose. En prime time, là, donc autre que le téléroman, là, je trouvais...
Omerta?
Ben, des... c'est ça, ces trucs-là sur Omerta. Ouais. Tout sur moi, il y avait quelque chose quand même. Okay. Il y avait des petites choses. Puis il y a des livres là, qui jettent les balises des grands temps de la télévision québécoise, puis qui divisent bien ça de manière historique.
Ouais.
C'est de l'analyse, là, comme on fait là, des maîtrises sur Six Feet Under ou sur The Wire.
Il y en a eu.
Mais pourquoi il n'y a pas de maîtrise sur... Ben, c'est ça. T'sais, Les Invincibles, il y en a eu une.
Ah oui?
Donc, c'est Karine Boisvert qui l'avait réalisée, qui était vraiment, vraiment bonne, qui m'a beaucoup inspirée d'ailleurs pour la continuité, surtout que c'était des mêmes créateurs c'est que vrai. Série Noire.
Mm-hmm.
Donc, ça, je trouvais ça vraiment intéressant comme... objet d'étude, j'ai dit, ah, mais pourquoi je ferais pas ça? Puis en plus, c'est presque à 10 ans d'écart. Donc, 10 ans plus tard, on fait quelque chose de similaire, mais en poussant peut-être un peu plus loin l'analyse oui. avec Série Noire, dans un autre contexte télévisuel
exactement.
Complètement
différent. C'est aussi, historiquement, on est arrivé, comme tu expliquais, le binge-watching, est arrivé, ouais. c'est la première ouais. instance au Québec ouais. d'offrir en binge-watching. Ça a changé
vraiment quelque chose.
Oui, oui, oui. Puis les pétitions de fans, oui. Toute l'idée de... culture convergente, on pourrait essentiellement dire ça. Là, c'est à tâtons. Là. On va s'entendre sur Série Noire. Mais la création des comptes Facebook.
Oui, des comptes Facebook. Il y a aussi l'après-show, l'obsession ouais, qui était vrai. Diffusée. C'est toutes des choses là, qui se mettent en place. Là, aujourd'hui, c'est obligatoire d'avoir un espèce de petit surplus. Là. Ça peut pas juste être une série télé. Il faut que la série vive d'une autre façon. Là. Mm-hmm. Donc, mettons, pour Unité 9, il y a le courrier sur le site web de Radio-Canada. Tu as le courrier ouais. pour écrire aux détenus. Fait que tu peux écrire aux détenus.
T'écris-tu au personnage ou t'écris au...
T'écris au personnage.
OK, c'est bon, excuse-moi, je pensais c'est que ça. Tu pouvais entretenir une
relation. Non, t'écris au personnage pour... qu'est-ce que j'étais allée voir? Oui, pour Rupture, la série ouais. qui se passe dans le milieu judiciaire, dans le droit de la famille.
OK.
Là, sur le site de Radio-Canada, ils t'offrent aussi ce que dit la loi par rapport à tel litige. Non, non, non. Donc, tu sais, c'est du contenu...
Là, c'est du contenu pédagogique, c'est ça. Ouais.
Aussi. Mais ouais. La série noire, c'était comme du contenu aussi supplémentaire, mais en forme de documentaire, en fait. C'était comme un espèce de petit documentaire. Ben, c'était-tu du documentaire, de la variété? Je suis pas très bonne avec les termes, là. Mais c'était un talk show. Ouais, c'est ça. En forme de talk show avec un animateur qui invitait une personne de la série, donc un créateur ou un acteur de la série, et des fans. Ouais. Un fan fini.
C'est ça.
Fait que c'était vraiment une réunion de fans qui appelaient les fans à regarder ça, puis pour leur donner des...
Il y avait-tu de l'analyse?
Il y avait de l'analyse. Ah oui? Il y avait de l'information supplémentaire par rapport à ce que vous auriez manqué, peut-être. Ou comme sur les références. Là. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références dans Série Noire, là, comme dans Les Invincibles. Là. Les gars sont assez...
Oui, c'est ça. C'est quand même... Tu le mentionnes dans ta maîtrise que c'est des gens qui, autant qu'ils œuvrent dans la télévision, sont gavés de cinéma.
C'est surtout ça. Ils ont une culture cinématographique vraiment forte. C'est une culture cinématographique aussi, tu sais, de films de série B, là, beaucoup. Oui. Puis de films de genre, là. Puis...
C'est très varié. Ça va de Evil Dead à Die Hard.
Non, si on est dans le film d'action, dans le film de kung-fu, on est dans le film policier. On est même dans la série policière.
Oui,
on est dans le soap policier, là, donc...
Oui, dans le roman noir, la série noire.
Vraiment, mais c'est ça, la saison 1, c'était surtout ça, là. C'était vraiment un univers du film, issu du film noir, mais...
Ouais, c'est vrai.
Mais, empruntant les codes aussi d'une série policière.
Et en les renversant.
Exactement.
Aussi, c'est ça.
C'est surtout ça, en les travestissant beaucoup.
J'ai binge-watché depuis la dernière fois.
Bon, t'as écouté saison 1 et 2.
Non, j'ai pas binge-watché Série Noire. Je l'avais déjà vu.
Ah, oui.
Mais c'est un des aspects de la rencontre initiale, puis pourquoi est-ce que je voulais t'en rencontrer, c'est qu'il y a quand même un débat, un échange d'idées dans Pop en Stock sur le binge-watching,
okay.
sur la pratique du binge-watching. Puis quand j'ai vu ta maîtrise, j'ai fait comme, ah, c'est super le fun parce que tu l'abordes. C'est ça que tu...
Ben, non, la saison 2. La saison 2.
Ouais,
oui, c'est ça, la saison 2. Mais à petite dose.
Comment tu peux binge-watcher à petite dose?
Je sais pas comment te dire. C'est en fait, on a décidé... C'est tellement bon.
Ouais.
En fait, la saison 1, c'est important de le dire. La saison 1 était donc diffusée une fois par semaine sur Radio-Canada.
Ouais.
Sur les ondes de Radio-Canada à la télévision. La saison 2 a été disponible sur tout.tv Extra avant cette diffusion dite traditionnelle sur les ondes de Radio-Canada à la télévision.
Ouais.
Donc, nous, on a eu accès. On a payé l'extra tout.tv. Donc, on est un public premium. On a donc, mon copain et moi, à l'époque, payé pour avoir accès à cette plateforme-là pour pouvoir regarder Série Noire de manière à le binge-watcher.
Ouais.
Binge-watcher par deux épisodes, je te dirais. Je sais pas trop si on peut dire binge-watch, mais c'est deux, trois épisodes.
Moi, ça s'éloigne de ma définition personnelle.
C'est ça.
Binge-watcher, là, quand je te dis
c'est vraiment gavage,
jeunes,
là, on le regarde au complet.
Sept épisodes en une soirée, là.
OK, c'est ça. Mais il était disponible à nous pour qu'on puisse faire ça, mais on l'a pas fait pour pouvoir étirer le plaisir.
OK. Parce
que c'était tellement bon, on voulait pas que ça finisse.
OK, c'est ça. Ça, c'est... On se rapproche plus. Moi, c'est que j'ai toujours un sentiment de pas de distance, mais de ne pas nécessairement avoir consommé l'objet culturel de la même manière quand les personnes disent qu'ils ont binge-watché un truc.
C'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Alors, pour être 100% honnête, non, j'ai pas binge-watché Série Noire.
Ben non, parce qu'encore...
Parce que c'était trop bon. On voulait étirer le plaisir. On voulait pas que ça finisse. On voulait pas que ce soit un produit jetable que tu regardes puis que tu oublies un petit peu à la fin. C'est ça aussi. Il y a quelque chose dans le gavage télévisuel de l'ordre de la facilité aussi, que tu peux en regarder plusieurs sans vraiment...
Mais il y a du monde, je suis d'accord, mais il y a du monde qui binge-watch Game of Thrones.
Oui, puis j'ai binge-watché Six Feet Under.
Ah, ouais.
Fait que tu sais, c'est sûr, mais il y a dans cette idée-là, moi, quand j'ai binge-watché Six Feet Under, c'est pas nécessairement l'appellation contemporaine, contemporaine, parce que je l'ai binge-watché via les DVD.
Ouais.
Parce que je voulais être dans le coup. Je savais que ça, c'était une série importante à regarder. Fait qu'on va la regarder, mais j'ai pas de temps à perdre, là. Je vais la regarder, là, Six Feet Under. Fait que go! 3, 4, 5 épisodes en une nuit. J'ai fait des cauchemars.
Ben oui.
J'ai fait des cauchemars sur la mort, mais j'ai binge-watché Six Feet Under. Mais aujourd'hui, je le regrette parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai manquées parce que c'est une série de trop grande envergure, je pense, pour qu'elle se fasse binge-watcher.
Mais là, est-ce que tu peux la réécouter?
Je pourrais la réécouter si je le voulais. Puis avec un autre regard sur la série, porter une attention plus particulière au scénario puis aux enjeux, aux relations vraiment familiales, puis aux personnages secondaires. Il y a plein de choses. La mise en scène, après, tu peux vraiment t'attarder à un épisode à la fois. Mais là, quand t'es pressé, tu regardes, puis tu veux écouter ça parce que c'est la série qu'il faut écouter, ça, de Sopranos aussi. Sopranos, c'est...
Binge-watch, plus...
Sopranos. Non, ça, j'ai commencé ça, puis je pense que j'ai été découragée bien assez vite. Fait que là, j'ai abandonné.
Ouais. Mais c'est parce que pour toi, t'es une téléphage, fait que tu prends ça vraiment au sérieux d'être au parfum, connaître.
Ben pour connaître, ça fait partie de ma série. Moi, je suis sériephile. Autant que les gens sont cinéphiles ou cinévores, moi, je suis télévore de série. Donc,
t'es sur quoi, là?
Là, je viens de terminer Sharp Objects.
OK.
Je ne l'ai pas binge-watché parce que de Jean-Marc Vallée, je ne l'ai pas binge-watché, c'était trop dur.
Ouais.
Ça, c'est un univers glauque, dark, on est il fait chaud, on est dans le sud des États-Unis, il y a des meurtres, le personnage principal se mutile, elle boit, est alcoolique, elle a vécu clairement des agressions sexuelles puis des abus de la part de sa mère quand elle était jeune, donc il y a des émissions que tu binge-watch moins, comme ça, non. Mais à la fin, je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui se passait. J'en ai écouté deux, trois de suite. Là,
Ben, c'est aussi parce que quand tu es rendu au quatrième
acte. Oui. Là, tu te dis, bon, OK, go, on veut savoir.
Ouais. Fait que ce que j'en déduis, c'est que tu as un peu laissé l'instantanéité. Sharp Objects, la vague est un peu passée.
Oui, tu c'est ça aussi.
Tu
veux pas
parce que tu voulais...
Non, parce qu'après, moi, j'ai pas HBO. Donc, il a fallu que j'attende que ça soit disponible autrement pour pouvoir le regarder. Il y a ça aussi. Là, à un moment donné, il faut faire des choix sur, en tant que consommateur, à quelle plateforme on veut s'abonner.
Mais toi, tu priorises la télé avant tout.
La télé ou avant tout, avant,
ben,
avant
quoi? Au-delà du cinéma? Au-delà
non.
Ah non? OK. Non, excuse-moi, parce que tantôt, t'as dit genre, moi, je suis télé.
Oui, c'est ça. Ben, c'est en fait... Je trouve ça dur de prioriser quelque chose parce que, tu sais, je priorise la lecture aussi. Là, je lis des romans, mais là, j'aime le cinéma. Je vais être à la page au cinéma aussi. Mais moi, il y a la fiction télévisuelle qui me plaît vraiment beaucoup. Puis surtout aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire qui se rapproche, en fait, de plus en plus du cinéma. C'est juste ça, en série.
Oui, c'est ça. C'est juste
je trouve ça difficile de dire que moi, je priorise, tu sais, de prioriser un médium par rapport à un autre. Puis aussi, c'est mettre des distinctions entre différentes sortes de médiums, à moins que tu ouais, voulais
non,
pas dire
non,
ça.
C'est là. Ça. J'allais pas dans la hiérarchisation. Okay, je voulais vraiment plus avoir un sentiment de toi.
Moi, personnellement, ouais, ouais. Là, j'aime tout. Je suis une passionnée de culture. Là. J'aime être le plus au courant possible de qu'est-ce qui se passe, mais choisis mes choses. Donc là, je suis peut-être un peu plus snob d'un point de vue télévisuel. Choisis mes programmes, choisis mes chaînes, choisis mes producteurs, mes réalisateurs, là, mais comme n'importe qui, là, j'écoute pas que
tout le monde
la
est au courant un peu d'un programme culturel finit par développer un flair. Là.
C'est ça. Là, j'ai mes scénaristes maintenant fétiches là, je surveille un petit peu. Là, donc, moi, Marti Noxon, qui avait fait... Ben, c'est ça, c'est elle qui est derrière Sharp Objects. Okay. On le sait pas, mais c'est la scénariste de Sharp Objects. Elle avait aussi écrit Dietland l'année passée. C'est ça, il y a des séries un petit peu obscures là, qui passent sous silence, mais qui abordent des sujets super intéressants. Donc, Dietland, c'était l'histoire d'une grosse qui travaille dans un magazine de mode et puis sur son travail aussi, elle est militante extrémiste contre la grossophobie. Donc, il y a tout aussi un discours paradoxe, social. Ouais, okay. Il y a un discours social qui embarque là-dedans. Puis c'était assez bien fichu. Là. Ouais. C'était vraiment l'humour mordant, l'humour noir, mais en même temps, qui s'ancre vraiment bien dans les problématiques sociales d'aujourd'hui. Là. Ça me plaît. Ça me plaît bien quand c'est pas plaqué, là, quand on dit, ah, tiens, la grossophobie est dans l'air, donc là, on va faire une émission qui traite de ça. Je trouve ça toujours un peu moyen. Ou comme le féminisme est dans l'air, on va faire une série féministe, mais on va vous passer le message au travers de la gorge. Ça, je trouve ça toujours moins...
Ouais, je sais pas combien... Ouais, j'en ai pas qui me viennent en tête, mais je suis pas un aussi grand écouteur que toi,
ouais,
honnêtement.
Je les écoute pas tous, mais je lis aussi pas mal de... Mm-hmm. Je lis beaucoup d'articles aussi, puis je trouve que ça... Des fois, ça paraît. Ou comme dans les web-séries aussi, là, j'ai...
Ah oui, c'est vrai, ça, c'est un territoire que vraiment...
C'est un territoire qui est un beau terrain de jeu, mais il n'y a pas tant d'argent non plus. Fait que, d'un côté, tu peux te dire, c'est le fun, on pourrait essayer des choses différentes, mais d'un autre côté, ça reste dans un carcan très institutionnel. Là, donc, c'est les grosses boîtes de prod qui financent ces web-séries-là. Ouais. Mais des fois, ça donne des petits bijoux. D'autres fois, ça donne des choses vraiment convenues que tu te demandes,
Ça devient des démos, par exemple.
C'est ça, ça devient des démos. Donc, là, après, c'est faire... Ça, après, c'est une autre histoire. Je suis pas l'expert des web-séries, là.
Ça sent bien,
là. Il faut que tu te dépatouilles là-dedans, là, puis tu trouves le bon grain de livret, là. Wow. Il y a des choses bien intéressantes, quand même. Il y a d'autres choses. J'ai écouté quelque chose il y a pas longtemps, là, je vais pas dire le nom, là, mais... Ouh là là, là, puis c'était surtout .tv, là, tu te dis, OK, on devrait aller ailleurs avec ce genre de web-série-là, mais non, ça nous ramène 10 ans en arrière. Fait que tu te dis, c'est un vieux projet là, que tableté qui revient au goût du jour, là, parce que c'est très beau formellement. Puis...
OK, wow!
Okay, ça parle aux jeunes contemporains, mais après, dans le traitement, c'est vraiment moins bien réussi. Là. Mais là, après, les gens, est-ce qu'ils voient ça? J'analyse les discours là, qu'on m'offre. Là, donc.
Mais là, en même temps, c'est intéressant par rapport à ta maîtrise. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais avant d'avoir fait ta maîtrise ou ça, tu t'es raffiné?
Je me suis raffinée, puis ça, je suis vraiment contente d'avoir fait ma maîtrise pour ça.
Ouais.
Après, on s'embarque dans le monde de la maîtrise, on ne sait pas trop pourquoi, puis... Moi, c'est parce que j'étais passionnée de séries puis je voulais vraiment parler de séries noires. Avant toute chose, j'étais une fan de séries noires puis je dis, il y a quelque chose là de fascinant, je veux parler de ça. Mais je regardais la télé comme n'importe qui, là. Je me laissais divertir. J'aimais ce qui se passait au niveau de la réalisation. Mm-hmm. Je suivais les gros noms. Je voyais ce qui se passait d'un... Les réalisateurs de cinéma qui migrent vers la télévision.
Ouais.
Mais...
T'en parles dans ta maîtrise aussi.
Oui, j'en parle dans ma maîtrise. En fait, tous les grands réalisateurs maintenant ont une émission de télé. Là. Spike Lee, Martin Scorsese, Woody Allen, Jean-Marc Vallée qui était au cinéma, qui est maintenant vraiment. Donc, moi, public, je dirais peut-être en haut de la moyenne, là, donc un peu plus assidu. Mais là, j'ai vraiment développé une grille d'analyse là, plus discursive, là, comme on peut dire. Là. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Là? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qui se passe à l'écran? Quels sont les messages?
Tu as eu une meilleure tête à écouter la télévision suite à ton expérience à maîtrise. Est-ce que tu as l'impression que Série Noire a fait ça pour tout le monde qui l'a écouté?
C'est vraiment une bonne question.
C'était-tu comme un moment en télé?
Mais j'ai comme vraiment l'impression que c'était en effet un moment parce que c'était vrai. C'était comme un ovni, là. Puis ça, c'est pas moi qui le dis.
Non, non,
c'était le mot qui a été utilisé beaucoup dans la revue de presse. Donc, tu sais, il y avait comme... je dirais qu'il y a comme un avant puis un après Série Noire. Mm-hmm. Comment est-ce que tu peux faire d'autres choses après, sachant qu'il y a eu Série Noire? Il faut mener ça ailleurs, alors, la télévision. Puis surtout, Série Noire demandait ça. C'est un peu ça, pas la morale, mais le message, ou du moins, c'est ce que j'ai compris à ma lecture. Tu sais, on met des... c'est des scénaristes, dont un des scénaristes est aussi l'auteur de la série, qui se mettent en scène, qui proposent une autre manière d'écrire la télé, qui proposent une autre manière de penser l'écriture de la télévision.
Ils se mettent en danger aussi.
Ils se mettent en danger. Ils savent là, ce qu'ils ont écrit. C'est pas super. Là.
Tu parles de la loi de la justice.
Je parle de la loi de la justice. C'est ça qui est leur série qui a eu des super codes d'écoute en région. Donc, ça revient pour une deuxième saison. Mais la critique a été comme vitriolique là, à leur endroit. Là. Donc, en se mettant en scène, en proposant cette nouvelle façon de scénariser une série, puis c'est ça, c'est surtout en mettant aussi l'auteur de télévision comme vedette d'une série, tu sais, tout ça. Moi, je pense, c'est vedette, oui.
Je sais, mais je veux dire, avec Fabienne, puis avec, on avait déjà des... Mais que c'était pas les acteurs, mais...
Non, c'était pas les acteurs, mais là, on les met dans l'écran, on les voit, on sait c'est quoi leur travail, on sait ce qu'ils doivent faire,
C'est pas une idée très réaliste de
leur travail. Non, c'est pas une idée réaliste, c'est une idée, c'est sûr, très imagée, mais
ça fonctionne avec la prémisse aussi de la série.
Exactement. On veut parler de télévision, on veut parler de création, on veut... C'est ça, Marc Arcand le dit, vous êtes des artistes, écrivez... Il dit, donc, moi, en tant que spectatrice, je me dis, OK, c'est une série sur la création. Donc, c'est une série sur l'état de la télévision. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, en fait? Parce que c'est clairement une critique. Les codes d'écoute dans la deuxième saison, c'est ça. C'est tout... Il y a une petite gang, là. C'est les codes d'écoute là, qui a le pouvoir de la cote. Donc, c'est ces gens-là qui, en fait, doivent écouter de la télévision puis font du chantage envers certaines émissions pour avoir de l'argent et donc améliorer les codes d'écoute de certaines émissions. Mmh. C'est une critique directe à cette façon-là d'opérer. Alors que les publics sont complètement fractionnés aujourd'hui. Il y a presque plus personne. Les rendez-vous télévisuels, là, ils se font plutôt rares. Là. Il y a District 31 encore. Il y avait Unité 9 là, qui se termine, en fait. On est mardi, là, mardi 26 mars, et puis ça se termine ce soir, Unité 9.
Ah, ce soir?
C'est la grande finale d'Unité 9. Dans le fond, je te disais que je voulais aller travailler, là, mais non, il faut que j'aille écouter une T9.
Non, mais c'est correct, c'est pas de problème. Ben, je veux juste le suivre.
Je l'ai pas suivi. J'ai suivi au début, mais j'ai pas suivi après. Mais ça se termine aujourd'hui. Mais une T9, District 31, ça vient chercher un public au quotidien qui est quand même assez fort.
Ben, qui est dans les dernières grosses forces.
C'est ça. En même temps, c'est pas prime time le soir, là, mais les séries prime time le soir, là, vers 8-9 heures, là, les gens le binge-watch, tu sais. Ils vont écouter ça ailleurs parce que les gens ne veulent plus écouter de publicité. Là. C'est fini, là,
ça. Non, les plateformes sont en train de varier, oui, beaucoup.
Exactement, là. Donc on veut aller ailleurs.
Oui. Puis là, ça serait... Ce soir, on va peut-être voir dans les derniers...
Ben oui, ce soir, tu sais, il y a quelque chose, un événement, là. Unité 9, ça
quand même... Tu vas-tu l'écouter, même si tu ne suis pas?
Ben, en fait, oui, c'était dans mes plans.
Hein? C'est à quelle heure?
C'est à 8 heures.
OK, on va t'arranger ça.
Ben non, mais c'est correct. Je vais le réécouter sur tout.tv.
Ben non, mais
voici un événement télévisuel... J'aimerais ça, comme faire partie de tout le monde.
Du simultané.
Donc, exactement. Simultané du groupe. Ouais. C'est ça, je pense, la télévision aussi, c'est tout le monde se rassemble devant comme un écran.
Bien, surtout que, comme tu disais tantôt, tu sais, il y a une grande tradition télévisuelle autour du Québec, au Québec, autour de la télévision. Et à mon avis, elle découle aussi du radio-roman. Puis l'idée de tout être autour de la radio puis d'écouter.
Ouais.
Fait qu'il y a peut-être quelque chose de
très... En plus, on écoute la télévision, on la regarde pas.
Oui, c'est vrai.
Le fait qu'on dise écouter. Ouais,
c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puis c'est aussi, tu sais, ça fonctionne avec le climat. L'idée que, bon, évidemment, nous ne vivons plus les mêmes hivers grâce au réchauffement climatique, mais aussi grâce à l'isolation, qui est une technologie qui se déculpe dans son efficacité. Mais le fait que c'était ça qu'on faisait initialement.
Ben oui.
Tout le monde se mettait en rond à écouter quelque chose.
Ouais, c'était une nouvelle technologie.
La radio était une nouvelle technologie. Après, il y a eu la soirée canadienne
qui était...
ça en fait.
C'est pas si vieux que ça, là. L'objet, là, de l'écran cathodique, là, c'est pas si vieux que ça non plus. Donc, c'est sûr que c'est une nouvelle technologie, donc tu veux te mettre autour de ça, là. Puis ouais. Ensuite, l'ordinateur non plus, c'est pas une. C'est une nouvelle technologie, donc c'est sûr là...
Bon, il y a un ajustement.
Il y a un ajustement, ouais. C'est sûr.
Mais c'est ça,
donc,
mais...
On la regarde, c'est normal qu'on la regarde plus de la même façon.
Non, je suis d'accord, mais le binge-watching ne permet plus, par exemple, une écoute simultanée ou une écoute conviviale ou un sentiment que...
Non, c'est ça.
Tu sais, je suis presque enclin à vouloir l'écouter. J'ai jamais écouté aucun épisode d'Unité 9 ce soir, mais cette idée d'être syntonisé avec les gens que je sais sur ma rue qu'il y a... S'il y a une cote d'écoute de 1 million, par exemple,
ben, je sais qu'il y a 4
personnes
comme...
sur ma rue qui l'écoutent. Ouais. Fait que je suis en syntonisation avec ces 4 personnes-là. Il y a quelque chose de peut-être d'analogue, là, malgré qu'on parle de télévision digitale, mais il y a peut-être quelque chose d'analogue là qui n'est pas possible avec le binge-watching. C'est une critique que j'ai trouvée vraiment intéressante, qui s'applique au binge-watching, mais qui s'applique aussi à la qu'est-ce qu'on appelle le spoiler culture. C'est cette idée-là que en encourageant le spoiler culture, tu empêches la conversation. Puis ces objets-là sont supposés des objets de conversation. Fait que, tu sais, quand tu dis à quelqu'un « Je suis en train d'écouter Game of Thrones », tu dis « Mais ouais. » Immédiatement, tu es en train de partager quelque chose de culturel qui est supposé te servir à une connexion. Tu coupes la connexion immédiatement en disant « Parle-moi-en pas, parce qu'on n'est peut-être pas en même place. » Fait que là où l'objet culturel est supposé être quelque chose qui crée un lien... Tu dis, ouais, mais j'ai pas vu ça. Puis là, tu fais,
ok,
d'un coup, j'ai pas le droit d'en parler. J'ai pas le droit.
Non.
Puis ça.
Mais c'est ça. Ça isole. Ça devient des publics isolés. C'est ça. Des petits publics fragmentés.
Ce qui a de l'air de pas trop leur causer de problème en termes de code d'écoute, mais que moi, je trouve que c'est désolant en termes de. Tu peux juste commencer à parler de Game of Thrones quand t'es dans une pièce avec tout le monde qui est rendu à la fin de la saison 5. Puis là. OK, tout le monde est correct? Tout le monde est là? C'est bon? OK, c'est bon. Ouh, là, on peut en parler. Puis je trouve que c'est barrières-là.
C'est ça, les discussions à côté de la machine à café ne sont plus les mêmes.
C'est ça. Que toi, je comprends là, d'aller voir, de vouloir écouter une T9 ce soir, parce que demain, tu vas pouvoir la faire.
Ben oui.
Sauf s'il y a des gens autour qui se font comme « Ah, là, je n'ai pas écouté ça! »
Ouais, c'est ça. Mais là, après, c'est comme... C'est comme dire, hey, hier au Super Bowl, j'ai pas vu le Super Bowl. Mais là, regarde.
Non, c'est ça, le sport, c'est une autre affaire.
C'est une autre affaire, mais ça reste de l'ordre de l'événement, en fait. Moi, absolument. C'est pour ça. Moi, je veux l'écouter pour. Je dis, OK, il y a quelque chose de spécial qui se passe ce soir. C'est la fin d'une T9.
C'est
pas la même chose que le Super Bowl, mais en même temps, tu te dis, ben là, si tu l'as pas vu, tu sais, je sais pas trop quoi te dire. Tout le monde était là hier, là. Tout le monde était là, alors c'est toi qui es rejeté, qui n'est pas dans.
Puis j'ose...
pas dans le tort, là, mais...
J'ambitionne peut-être un peu sur mon interprétation, mais j'ose espérer que les gens l'écoutent pour en parler.
Ben oui.
Personne qui m'écoute une T9 juste pour posséder cette connaissance.
Ben non.
Malgré qu'il y a des catharsis, puis il y a des tensions dramatiques, puis tout, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de qualité artistique
à l'objet. Mais non, mais c'est certain que c'est pour en parler. Mais oui.
Fait que quand tu te mets dans des espèces de circonstances que tu peux pas en parler à cause qu'on a développé une culture à... Plusieurs vitesses, j'allais dire deux vitesses, mais c'est plusieurs vitesses.
Plusieurs vitesses, oui.
Ça devient comme malhabile, c'est plate. C'est vraiment plate. Bon, ça, c'était ma petite parenthèse.
Ben, c'est correct. Je suis moins experte, c'est ça, dans le public, là.
Ah, je suis pas d'accord. Non, je suis vraiment pas d'accord. Non, je l'ai devant moi, tu l'as fait. Tu peux me contredire, j'ai tout lu. Non, t'as le droit de me contredire, c'est correct. Donc, quand tu es arrivé au moment où est-ce que tu as saisi que c'est là-dessus que tu voulais travailler, on le voit dans ta méthodologie, tu dis que tu fais des analyses seulement du premier et du dernier épisode de chaque saison.
Parce que je suis dans une méthodologie socio-sémiotique, donc qui implique d'aller à l'extérieur de l'œuvre.
OK.
D'aller voir le contexte de production, le contexte de réception. Et puis, c'est aussi pour une raison de temps. Moi, je travaille, j'ai fait ma maîtrise à temps plein et j'ai travaillé à temps plein. Donc, c'était un choix. Ben merci. C'est comme dans ma... En fait, c'est ça ma plus grande réalisation. J'ai réussi à faire les deux. Mais peut-être au détriment d'une méthodologie qui... Pas qui se vaut, là, mais je me dis...
Non. Elle est vraiment bonne, ta méthode.
Mais si j'explique bien qu'on peut écouter, on peut analyser une série en écoutant le premier puis le dernier épisode. T'sais, c'est le premier épisode, mais la table, le dernier épisode, clôt le tout. On a une bonne idée de qui sont les personnages, quel est le...
Le fil conducteur.
C'est ça, le fil conducteur, exactement, l'ambiance, etc. Donc, ça, ça va.
Oui, parce que fondamentalement, tu n'as pas un si grand décalage entre ces deux épisodes-là.
Exactement. Hein, non. Surtout, c'est assez court. Mm-hmm. Puis, c'est pas un soap là, où il se passe mille péripéties par 10 secondes. Là, ouais. Donc, tu sais, ça se fait bien. Et puis, donc, c'est ça. Comme la socio-sémiotique implique d'aller aussi à l'extérieur de l'œuvre, j'ai décidé de faire une analyse de ce que les gens disaient de cette œuvre-là, donc c'est-à-dire la critique et aussi Radio-Canada, comment Radio-Canada a déclaré l'œuvre, pour prendre les mots d'Eskenazi, donc comment Radio-Canada présentait cette œuvre-là et comment les journalistes, les critiques ont accueilli aussi cette œuvre-là pour donner un sens.
Oui.
Tout le monde donne un sens. L'œuvre dégage du sens, mais moi, je pense que l'œuvre ne peut pas dégager sans d'autres personnes qui l'interprètent ou d'autres instances qui donnent aussi ce sens-là. Du sens, ça ne se crée pas dans le vide, là. Non, c'est ça. Donc, je voulais pas canaliser cette série-là. Je voulais savoir comment Radio-Canada percevait cette série-là au sein de sa programmation, comment les critiques accueillaient Série Noire, comment ces deux institutions-là articulaient une même idée, en fait, ou une même...
Ou ça aurait pu être une idée contradictoire.
Exactement, ou une idée contradictoire. Comment... En fait, c'est ça, je m'intéressais, moi, à la construction de sens.
Mm-hmm.
Donc, oui, Série Noire m'en donnait beaucoup, mais me donnait beaucoup d'indices sur ce que ça voulait dire puis par rapport au contexte actuel là, de la télévision. Mais je pense que les critiques aussi, les journalistes, te donnent... La communauté interprétative aussi te donne beaucoup de sens. Puis ça me permettait aussi d'aller ailleurs puis de faire un petit détour vers les fan studies. Là,
c'est ça. Puis dans cette scène, c'est effectivement cette chaîne-là que je trouve qui est vraiment intéressante. Est-ce que tu as vu de la transformation entre ce que la série disait, ce que Radio-Canada disait, ce que les journalistes disaient, ce que les fans disaient?
Moi, je trouvais que tout le monde allait vraiment... J'ai vraiment vu une cohérence entre ces trois instances-là. Radio-Canada aussi disait que c'était... En fait, que c'était une œuvre. T'sais, que c'était pas qu'une série comme les autres. Là. C'était une œuvre. Il y avait deux artistes derrière cette œuvre-là. Jean-François Rivard, François Letourneau. Des artistes que les gens connaissent parce qu'ils leur ont offert Les Invincibles, qui ont gagné des prix, qui ont été super bien accueillis par la critique. Donc, déjà, Radio-Canada plaçait Série Noire comme une œuvre singulière dans la programmation, quelque chose qui n'existait pas nécessairement. Comme, c'était pas une série, c'est ça, c'était une œuvre d'art. Là. On n'est pas dans la télévision ordinaire, là. On est dans la télévision premium.
Il utilisait complètement un autre champ lexical pour être capable de parler de ça que de parler de la loi de la justice.
Oui, par exemple c'est ça.
Qui n'existe pas, mais que
c'est qui aurait pu exister. Là, c'est ça, c'est pas Virginie. Là.
J'essayais de pas bâcher sur quelqu'un.
On va le dire, je suis désolée. Ben, le Virginie, c'est terminé, là. C'est beau, on sait. Fabienne est correcte.
Moi, non, c'est vrai qu'elle
elle pleurera pas ce soir dans son lit. Donc...
Non, parce qu'il y a Unité 9. OK, non.
Ben, Unité 9, tu sais, Unité 9, on peut bien rire, mais elle a quand même réussi à faire.
Absolument. Bon, oui,
après, je l'ai pas analysé, mais elle a fait une série là, qui se démarque avec... C'était une série vraiment intelligente. Là. Après, c'est les moyens qui offrent moins ce qu'on espère d'une série. Mais bon, voilà. Donc, d'un côté, Radio-Canada qui déclare Série Noire comme une œuvre.
Dès d'entrée de jeu?
Oui.
Ouais.
Oui. Surtout à partir de la saison 2 aussi. Okay. Puis quand même, à partir de la saison 2, un petit plus, l'ancre même dans son contexte numérique. Là. Ouais. Donc, l'obsession, c'est offert sur Tout.tv l'extra, ce qui n'était pas le cas de la saison 1. Mais oui, d'entrée de jeu, dès la première saison, là, c'est comme on a affaire à quelque chose.
Il y avait une confiance de la part du diffuseur. Ils savaient, OK, c'est bon.
Ouais.
Ça a pas été ils n'ont pas été pris par surprise. De la communauté de fans, par exemple, qui ont comme embarqué, puis eux autres ont fait, hop, après le coup, hop.
Non.
Ils savaient qu'il y avait quelque chose dans les mains.
Oui, exactement. Quelque chose de singulier. Mais je pense qu'ils pensaient que le public allait être à la télévision à chaque semaine.
Mm-hmm. Je pense qu'ils ont étaient encore dans les carcans traditionnels.
Je pense qu'ils ont sous-estimé les jeunes qui ont vraiment aimé ça. Puis qui sont allés aux événements Série Noire. Là.
Il y a eu des événements
Il y a eu un événement, le lancement de la saison 2 de Série Noire s'est fait à Radio-Canada dans le garage. Puis il n'y avait que des jeunes là. Puis c'était plein. Moi, j'y étais. Puis ça aussi, c'était dans les... J'ai dit, OK, j'ai quelque chose. Là, j'ai jamais vu autant de jeunes à Radio-Canada de toute ma vie. Là.
C'est vrai. Hein?
Puis les jeunes étaient déguisés. Ils venaient comme... Hey, des gens qui avaient des perruques, les perruques de Charlène dans la première saison. Oui. Donc,
pas des employés, là.
Non. Des jeunes de l'extérieur de Radio-Canada qui étaient invités. L'événement était complet.
En cosplay?
Oui, c'était wow. Oui, en cosplay. C'est pas en cosplay. Mais c'est ça. Il y avait des perruques.
Ça prend juste une perruque.
Ça prend juste une perruque. C'est ça, là. Je pense que j'ai pas la
bonne. Non, mais parce que je comprends que le cosplay a des extravagances, mais essentiellement, quand tu.
Les gens se costumaient, puis il y avait un autre événement à la Nuit Blanche, là, pendant la saison 2 ou juste après la saison 2 aussi, c'était plein. Il y avait une classe de maître des deux co-scénaristes. Il y avait aussi un quiz organisé. Les jeunes étaient au rendez-vous, là. Donc, je pense que c'est ça, Radio-Canada a peut-être sous-estimé la tranche d'âge de son public. Puis en fait, ils l'ont changé après. Pour la saison 2, ils ont dit, OK, bon, c'est offert en formule binge-watching.
Ouais,
ceux qui veulent l'écouter.
Ils ont senti la pression d'avoir à suivre le public.
C'est ça, exactement. Les jeunes n'écoutent pas la télévision, donc ça ne marche pas. Voilà.
Ouais, est-ce que ça continue? Parce que je n'ai pas d'exemple en tête de la télévision actuellement, est-ce que...
Oui, c'est offert maintenant sur tout.tv l'extra, donc il faut que tu payes si tu veux. Il y a certaines séries qui sont offertes avant la diffusion traditionnelle. Je pense à Trop de Marie-Andrée Labbé. C'était sur tout.tv à la base. Puis là, après, quelques mois plus tard, ça atterrit sur les ondes traditionnelles.
Fait que Série Noire est un ovni, mais il a permis
cette ouverture du modèle. Oui, mais je pense que c'était la première fois qu'on offrait Série Noire en primeur. T'sais, une série en primeur à Radio-Canada, c'était ça.
Non, je suis d'accord.
Voilà pour l'instance productrice. Puis ensuite, les journalistes, c'est ça, eux décrivaient. Les journalistes ont embarqué dans l'histoire. Puis les journalistes ont été porte-parole En plus, c'est très drôle parce que c'est des journalistes, tu dis devoir de réserve, on essaye de comme être.
Même au Québec.
Mais c'est ça. Après, le Québec, c'est différent, là. Mais il était très investi. Marc Cassivi, je pense, est un des plus grands fans, là. Puis même Stéphane Baillargeon du Devoir, là, qui est toujours très. Posé, très froid, un journaliste qui analyse les médias. T'sais, moi, j'aime beaucoup lire. Je trouve qu'il amène la discussion un peu plus loin dans les médias. Mais là, il était emballé, là. Donc, fan de la première heure de la série. Donc, même les journalistes s'autoproclamaient fans de cette série-là. Et puis, tu connaissais les rouages, les citations. Donc, voilà, ça, je trouvais ça. Puis, il était aussi participant à cette espèce de distinction entre Série Noire et puis les autres.
Ben oui.
Le reste de la programmation, donc ça élevait déjà Série Noire à quelque chose de je dirais...
Oui, c'est vrai.
Je marche sur des œufs. Je veux pas dire meilleur que le reste de la programmation, mais du moins avec comme une qualité supérieure.
C'est ça. Mais je trouve que ta distinction que tu as faite tantôt est super correcte entre le fait qu'il la qualifiait d'œuvre d'art, ce qui la mettait à part
de...
œuvre télévisuelle.
Oui, puis ensuite, c'est pas moi qui le dis. C'est ça que je veux dire. C'est pas moi qui le dis. C'est de ce que j'ai lu, les critiques, puis Radio-Canada font une distinction au sein de Série Noire. C'était quelque chose de qualité supérieure au reste de la programmation.
Oui, c'est ça. Non, je comprends très bien que tu faisais pas du jeu.
De toute façon, on me l'a dit au début, là. Donc, j'ai bien compris que c'était pas facile de parler de la qualité. Parce que moi, c'est ça que je voulais savoir au début. Qu'est-ce qui fait que Série Noire est une série de qualité? Qu'est-ce qui fait que c'est bon?
Mais ce que tu voulais faire, c'est le mettre sur papier et de le décortiquer, de l'analyser.
Après, c'est une construction, là. C'est une construction.
Oui, mais il y a quand même un travail. Il y a un travail phénoménal que tu fais en regardant la tradition, comment est-ce que ça se défait de la tradition, où ça l'a innové, où ça s'est transformé. Il y a comme une partie que je trouve qui est vraiment intéressante où tu parles de... Pas la mutation, mais comme tout le discours de légitimisation de la télévision québécoise où il faut que tu sois capable de regarder comment ça se faisait ou comment ça se manifestait. Puis là, tu regardes comment ça se manifeste maintenant dans ce nouveau contexte-là. En étude sur la culture populaire au Québec, il faut toujours qu'on regarde par rapport à la légitimation. Fait qu'est-ce que tu as entrepris pour analyser Série Noire? Est-ce que, tu sais, j'imagine ton traiteur de mémoire n'avait pas de récalcitrance par rapport à ton projet?
Non, tout se passait bien, mais ça, je pense que j'avais de la difficulté à cerner ce que je pensais être la quality.
Ah oui, OK.
C'est surtout l'expression ça, quality TV. Ouais. Et puis, comment le rendre... En fait, pas ce que c'était... En fait, moi, je voulais pas faire de distinction entre la bonne puis la mauvaise télévision.
La hiérarchisation.
C'est la hiérarchisation. Mm-hmm. J'ai parlé de Bourdieu un peu dans mon mémoire. T'sais, la distinction, là, moi, ça me dégoûte. Là. Ouais. On est qui, nous, pour juger de qu'est-ce que... Parce qu'en fait, on devient méprisant envers ceux qui écoutent ce genre d'œuvre-là.
Ouais.
Donc, moi, je voulais pas ça. Mais j'avais la difficulté à comme bien, t'sais, bien placer l'idée de quality TV dans tout ça. Puis c'est-tu vraiment de la quality TV? C'est-tu...
Mais c'est un terme qui est un peu galvaudé, parce que quality, c'est ça,
là,
ça
après, présuppose... Après, j'étais genre, quality TV, c'est en fait une construction, là. C'est même pas l'œuvre en tant que telle, c'est ce qu'on dit de l'œuvre.
Oui, c'est vrai.
Fait que c'est pas ça, finalement. Alors là, je suis tombée sur Complex TV.
C'est ça.
Mm-hmm. Je suis tombée sur ce livre-là de Jason Mittel, bref. Complex TV, qui m'a vraiment plus aidée à aborder... mon œuvre, la série en tant que telle, mon texte, en fait. Donc, la Complex TV, c'est la télévision d'aujourd'hui qui est dite plus complexe que le reste de la programmation par rapport à sa mise en scène, par rapport à ses personnages qui sont multidimensionnels, une mise en scène qui est soignée, qui a comme une signature, qu'on est vraiment dans un style particulier, que ça peut être plus lent, ça peut être... On essaie de différents styles. Donc, il y a beaucoup de
l'exploration,
ça. L'exploration. Puis, tu sais, qu'on n'ait pas besoin de prendre le public par la main non plus. Donc, tu sais, c'est comme un langage qui est, c'est ça, dit plus complexe dans le montage. Donc, là, on était vraiment dans le... Ah, OK, là, on est dans le texte.
Puis, t'es pas en train de dire que c'est meilleur ou moins bon.
Non, là, je suis en train de dire que c'est plus complexe parce que mise en scène, réalisation, l'écriture, les personnages. Donc, là, j'ai vraiment... OK, là, j'ai trouvé... une de mes grilles d'analyse.
C'est ça, la théorie qui fonctionne avec ton propos.
Qui fonctionnait, là, puis qui m'empêche. Puis là, après, ça m'a pas empêché de parler de quality TV parce que, tu sais, on l'énonce comme ça aussi. Donc, oui,
c'est
comme...
Oui, c'est ça. Mais, encore, c'était très transparent. C'est ça, à la fin, il y a ce mot-là, mais je préfère ce mot-là.
Puis c'est beaucoup employé dans les television studies. Puis en même temps, c'est peut-être parce que moi, je suis pas capable de bien le maîtriser. Fait que j'ai dit, bon, ben, je vais arrêter de m'acharner sur Quality TV. Puis on va aller voir Jason Mittel, qui est en fait plus démocratique, je trouve.
Mais c'est ça, mais je suis pas d'accord que t'étais pas moins... Que t'étais ben pas
là,
capable
après,
de...
Ben après, c'est pas ça. Là, je te dis pas tout, là. Ce que tu lis dans le mémoire, c'est pas ce que je pensais derrière mon ordinateur que j'ai fait. Hey, là, c'est comme trop...
Ben non, mais c'est normal. C'est une théorie qui fonctionne pas,
quand tu bûches, quand tu bûches.
Ouais,
tu te dis, hey, là, je vais arrêter de m'acharner sur cette expression-là. Je vais essayer d'aller voir ailleurs. Puis ben, finalement, j'étais assez chanceuse.
Mais chanceuse, puis en même temps, pour être cohérent avec ce que je disais tantôt, tu t'exposes tous les gens qui vont avoir le plaisir de lire ta maîtrise n'auront pas à faire ce bûchage-là.
Non, c'est ça. Puis d'aller lire ça, parce que c'est parfait. Il a vraiment fait un travail exceptionnel là, dans son livre, là, qui est super bien divisé, puis qui donne plein d'exemples aussi, puis des exemples de mise en scène, des exemples de scènes. Puis là, tu comprends mieux. Ah, OK. Dans Breaking Bad, par exemple, là, quand il commence la série, là, tu te demandes qu'est-ce qui se passe à un vieux monsieur en culotte dans le milieu du désert, nanana, on est où, là? Puis là, finalement, tu te rends compte. OK, ça, c'est le présent, mais là, on va... Exactement.
Mais le relâcher le spectateur in medias res, c'est comme...
Oui, in medias res, c'est ça.
C'est
ça aussi. Série Noire a fait la même chose en saison 2. Là, donc,
ah oui?
Oui. Dans le dernier épisode, dans l'épisode final, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, là, les deux, il y a la police, ils ont comme...
C'est vrai.
C'est le scénario. Donc, tu sais, c'est toutes des espèces de stratégies de réalisation qui sont un peu plus recherchées, un peu plus raffinées. Oui. Que, par exemple, tu sais, sans rien dénigrer au téléroman, mais, tu sais, c'est trois, tu sais, c'est une cam, c'est même lieu, puis c'est les mêmes personnages.
Tu débrouilles avec ce que t'as, essentiellement.
Tu débrouilles avec qu'est-ce que t'as.
Ouais.
Là, en plus, c'était l'hiver, tu sais, c'est ça, même lieu, même saison dans les téléromans. Là, en plus, c'est l'hiver dans la série noire, donc, difficulté supplémentaire. C'est l'hiver, c'est la nuit, on gèle. Donc, à quel point ils ont décidé de pousser encore plus loin le.
Ils sont pas donnés de chance,
là, par rapport à ça. Non, ils sont pas donnés de chance. C'est en même temps, c'est super l'hiver parce que ça donne toi, parce que c'était diffusé aussi l'hiver. Donc, ça donne une authenticité supplémentaire. La première saison a été diffusée, ben, la deuxième aussi, en plein hiver, c'était la saison au mois de janvier. Donc, en plus, le spectateur là, qui est dans son fauteuil puis qui revient de la tempête dehors, ben, là, il écoutait Série Noire, puis ben, c'était l'hiver aussi. Donc, c'est comme une espèce. Ça rajoutait du réalisme.
Oui, oui, oui. Wow, c'est...
Écoute,
là,
c'est après...
Bonne observation, ça. Ben non, mais je veux dire, ça fonctionne très bien. Puis aussi...
Puis ça parle aussi beaucoup au public. Je le vois dans l'authenticité. Dans l'authenticité, ben oui, là, on est l'hiver 6 mois par année, là.
Ouais, ouais, ouais.
Puis d'habitude, tu sais, j'imagine que quand t'écris un scénario, c'est pour, tu sais, le tourner l'été. Donc, il faut que ça soit fait l'hiver d'avant. Donc, c'est tout à fait cohérent que ce soit fait l'hiver dans la situation des peintres, dans le milieu télévisuel.
Oui, mais il y a aussi cette idée-là que c'est tellement une représentation fidèle d'une réalité précise.
Mm-hmm.
Tu sais, c'est plutôt ça, c'est que cet hiver montréalais-là, et il n'aurait pas pu nous faire passer un automne montréalais pour un hiver montréalais.
Non.
On le sait, c'est
non,
quoi.
Non, c'est ça.
Ça fonctionne dans l'authenticité.
Exactement.
La série aussi que tu fais, oui. Fait que non, tu soulignes quelque chose de quand même très noble.
Noble et palais.
Ouais. C'était notre rencontre avec Ariane Thibault-Vanas, chercheure en communication, qui nous présentait sa maîtrise intitulée « Bienvenue dans le Marc Arcan World, manifestation de la légitimité dans une série de fiction québécoise, le cas de Série Noire ». Que, je vous rappelle, vous pouvez trouver sur archipel.ucam.ca. Bonne lecture tout le monde!